Chapitre 14. Cercle vicieux, cercle vertueux. Le message des règles de base de la prise de poids est extrêmement simple. Si vous êtes prédisposé à l'embonpoint, mais voulez rester aussi mince que possible sans mettre votre santé en danger, il vous faut restreindre votre consommation de glucides et ainsi maintenir votre glycémie et votre taux d'insuline à un niveau bas. La règle numéro 1, celle qu'il faut garder à l'esprit, est que l'on ne mincit pas en réduisant son apport calorique, mais en réduisant sa consommation d'aliments adipogènes, c'est-à-dire de glucides. Si après avoir atteint un poids qui vous convient, vous réintroduisez les aliments glucidiques dans vos menus, vous regrossirez. Le fait que seule une partie des êtres humains grossissent à cause des glucides, de même que seule une partie des fumeurs contracte un cancer du poumon, n'y change rien. Si vous êtes de cela, ce n'est qu'en évitant ces aliments que vous perdrez du poids et ne le reprendrez pas. Ce n'est pas la seule injustice dans ce domaine. Ce n'est même pas la plus déplaisante. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les mécanismes fondamentaux de l'adiposité n'impliquent pas que l'on puisse perdre du poids ou se maintenir à un poids donné sans faire certains sacrifices. Nous avons assimilé la notion de base, qui est que c'est à cause des glucides que nous grossissons et que nous gardons nos kilos superflus. Il faut maintenant prendre également conscience du fait que les aliments responsables du surpoids sont précisément ceux pour lesquels nous aimons craquer et auxquels nous n'avons aucune envie de renoncer, notamment les viennoiseries, le pain, les pâtes, les frites, les confiseries, la bière, etc. Ce n'est pas une coïncidence. Des recherches ont montré que les aliments que les animaux mangent de préférence aux autres, et parfois jusqu'à l'excès, sont ceux qui fournissent le plus rapidement de l'énergie à leurs cellules, c'est-à-dire les glucides les plus faciles à digérer. Mais il faut également prendre en compte un autre facteur, la sensation de faim, qui traduit d'une part la durée écoulée depuis notre dernier repas, et d'autre part, la quantité d'énergie que nous avons dépensée dans l'intervalle. Plus nous attendons entre deux repas et plus nous avons dépensé d'énergie, plus nous avons faim. Et plus nous avons faim, plus les aliments nous paraissent savoureux. Comme le remarquait Pavlov il y a plus d'un siècle de cela, on a raison de dire que la faim est le meilleur cuisinier. Avant même que nous ne commencions à manger, l'insuline accroît notre sensation de faim. Rappelez-vous, nous commençons à sécréter de l'insuline par le simple fait de penser à manger. Et particulièrement à manger des aliments et des sucreries riches en glucides. Et cette sécrétion d'insuline augmente en quelques secondes une fois la première bouchée avalée. Ce mécanisme s'enclenche donc avant même que nous ne commencions à digérer notre repas et que du glucose n'apparaisse dans notre sang. L'insuline ainsi produite prépare notre organisme à l'arrivée imminente d'une grande quantité de glucose, en retirant de la circulation sanguine les autres nutriments et notamment les acides gras. C'est pour cela que notre sensation de faim augmente par le simple fait de penser à manger, et qu'elle augmente encore avec les premières bouchées. On dit à juste titre que l'appétit vient en mangeant. Au cours du repas, ce terrain métabolique de la faim, pour paraphraser le scientifique français Jacques Lemagnien, commence à disparaître. Notre appétit est satisfait, nous nous sentons rassasiés, et ce que l'on appelle l'appétence des aliments, le fait qu'ils nous paraissent savoureux, diminue également. À ce moment-là, l'insuline conditionne notre cerveau pour effacer l'appétit et l'envie de manger. C'est pourquoi les premières bouchées d'un repas paraissent toujours meilleures que les dernières. Et c'est l'explication physiologique probable du fait qu'un grand nombre d'entre nous, minces ou non, apprécient tant le pain, les viennoiseries, les pâtes et autres aliments riches en glucides. Car il nous suffit de penser que nous en mangeons pour commencer à sécréter de l'insuline. Et l'insuline attise notre appétit en extrayant temporairement des nutriments de notre sang et en les mettant en réserve, ce qui, en retour, nous fait savourer nos premières bouchées davantage que ce ne serait le cas autrement. Plus notre glycémie et notre insuline répondent fortement à un aliment donné, plus nous aimons le goût de cet aliment. On peut considérer comme presque certain que ce lien entre les réponses glycémiques et insuliniques et l'appétence des aliments glucidiques est anormalement fort chez les personnes en surpoids ou prédisposées à l'être. Et plus elles sont en surpoids, plus elles ont envie d'aliments riches en glucides, parce que leur insuline stocke de plus en plus efficacement les lipides et les protéines dans les tissus musculaires et adipeux où ils ne peuvent pas servir de carburant. Une fois que l'on a développé une insulinorésistance, ce qui finit par arriver, les périodes où notre sang contient de l'insuline s'allongent et peuvent même devenir continues. Sur 24 heures, celles au cours desquelles le seul carburant pouvant être brûlé pour fournir de l'énergie à l'organisme est le glucose issu des glucides, s'allongent donc elles aussi. N'oublions pas que l'insuline est en mesure de garder sous clé, pour plus tard, les protéines, les lipides et même le glycogène, qui est la forme sous laquelle les glucides sont stockés. Elle leurre nos cellules en les informant d'une présence excessive, fictive, de sucre sanguin prêt à être brûlé, et nous ressentons en conséquence une forte envie de glucose. Et si pour y répondre, nous mangeons des protéines et des matières grasses, par exemple un steak sans frites ou un morceau de fromage sans pain, l'insuline stockera ses nutriments au lieu d'autoriser notre organisme à les utiliser comme carburant. Ces aliments ne nous feront pas vraiment envie, en tout cas pas s'ils ne sont pas accompagnés de frites ou d'un morceau de pain riche en glucides. Car à ce moment, ce n'est pas ces nutriments-là que notre organisme souhaite brûler pour produire de l'énergie. Les sucreries sont un aliment à part, ce qui ne vous étonnera pas si vous êtes un bec sucré ou si vous avez élevé au moins un enfant dans votre vie. Tout d'abord, l'impact métabolique spécifique du fructose sur le foie, combiné à la stimulation de l'insuline qu'induit le glucose, suffirait sans doute à eux seuls pour déclencher des fringales irrépressibles chez les personnes prédisposées à prendre du poids. Mais les sucreries ont aussi un impact sur le cerveau. Selon les recherches de Bartley Hebel, professeur de psychologie et de neurosciences à l'université de Princeton, manger du sucre déclenche une réponse dans la même partie du cerveau, appelée système de récompense-renforcement, que celle qui est activée lors de la consommation de cocaïne, d'alcool, de nicotine ou de toute autre substance addictive. Dans une certaine mesure, tous les aliments provoquent cette réaction, et ce, semble-t-il, parce que le système de récompense-renforcement a évolué au cours du temps afin de renforcer les comportements qui bénéficient à l'espèce et qui sont l'alimentation et la sexualité. Mais il semble que le sucre déclenche un signal excessivement fort, similaire en cela à la cocaïne ou à la nicotine. À en croire la recherche animale, le sucre et le sirop de glucose fructose sont aussi addictifs que des drogues, et à peu près pour les mêmes raisons biochimiques. Nous sommes ici confrontés à un remarquable cercle vicieux. Les aliments qui nous font grossir déclenchent également en nous l'envie irrépressible de manger précisément les aliments qui nous font grossir. Ici encore, on peut établir un parallèle avec le tabac, car les cigarettes qui risquent de nous donner un cancer du poumon déclenchent également en nous l'envie irrépressible de fumer des cigarettes qui risquent de nous donner un cancer du poumon. Plus un aliment est adipogène, et plus vous êtes prédisposé à grossir en le mangeant, plus il vous fera envie. Il est possible de briser cette spirale infernale. Mais pour cela, il est indispensable de combattre ses envies et les accès de gloutonnerie qu'elles peuvent déclencher. De même qu'une personne alcoolique ou dépendante du tabac peut arrêter de boire ou de fumer, mais non sans un effort et une vigilance constants.